Chapitre 8. Les bases de la morale renversées par les notions sexuelles de l'importance d'une bonne réputation. Il y a longtemps qu'il m'est venu dans la tête que tous ces avis relatifs au maintien et que toutes ces différentes manières de s'assurer une bonne réputation, si vivement recommandées aux femmes, n'étaient que des vernis brillants, mais corrosifs, qui rongent la substance de la morale dont on l'a incrustée. Je me suis dit qu'en mesurant ainsi des ombres, il était impossible de ne pas tomber dans des erreurs de calcul, puisque leur projection est tellement dépendante de la hauteur du soleil et d'une foule d'autres circonstances contingentes. D'où naît le maintien d'un courtisan qui se fait un jeu, et un jeu si facile de tromper? Sans doute de sa situation, car se trouvant avoir besoin de ceux qui dépendent de lui, il est obligé d'apprendre l'art de refuser sans offenser, et de nourrir adroitement les espérances de l'aliment du caméléon. Ainsi, la politesse s'accoutume à se jouer de la vérité, et détruisant la sincérité et l'humanité propre à notre espèce, forme enfin ce qu'on appelle un gentilhomme. Les femmes acquièrent de même, d'après une prétendue nécessité, les dehors artificiels et faux qu'on leur connaît. Cependant, la vérité n'est pas une chose avec laquelle on puisse jouer impunément. Le charlatan le plus exercé devient à la fin lui-même dupe de ses tours de passe-passe. Il perd cette sagacité naturelle qu'on a justement nommée bon sens, et particulièrement cette perception vive des vérités les plus communes que l'esprit, qu'on n'a point gâté, reçoit constamment pour ce qu'elles sont, quoiqu'il puisse ne pas avoir assez d'énergie pour les découvrir lui-même, surtout quand des préjugés locaux l'ont obscurci. La majeure partie des hommes reçoit ses opinions de confiance pour s'épargner la peine d'exercer elle-même ses facultés intellectuelles, et ces êtres indolents s'attachent naturellement à la lettre plutôt qu'à l'esprit des lois divines ou humaines. Les femmes, dit quelque part un auteur dont le nom ne me revient pas, ne songent point à ce qui n'est vu que de l'œil du ciel. Et pourquoi voudriez-vous qu'elles s'en inquiètent? C'est l'œil de l'homme qu'on leur a appris à craindre, et quand elles sont parvenues à endormir leur arcus, elles ne pensent guère au ciel ou à elles-mêmes parce que leur réputation est en sûreté. C'est cette réputation, et non la chasteté avec les vertus qui l'accompagnent, qu'elles prennent bien garde de laisser entacher, non pas parce que c'est une vertu, mais de peur d'être dégradées du rang qu'elles occupent dans l'opinion publique. Je n'ai besoin, pour prouver la vérité de cette observation, que de faire remarquer les intrigues des femmes mariées, particulièrement dans la haute classe et dans les provinces où les parents leur font contracter des unions sortables suivant leur rang dans la société. Qu'une jeune fille innocente devienne la proie de l'amour, la voilà avilie pour jamais, quoique son âme ne soit pas souillée de ses artifices, que se permettent les femmes sous le chaperon commode du mariage. Elle n'a non plus enfreint aucun devoir que le devoir de se respecter elle-même. Au contraire, la femme mariée rompt le plus saint des nœuds et devient une mère cruelle quand une fois elle est épouse déloyale et coupable. Si son mari conserve encore quelque affection pour elle, les ruses qu'elle emploie nécessairement pour le tromper la rendent le plus méprisable de tous les êtres. Car enfin, les manœuvres nécessaires pour sauver les apparences doivent au moins tenir son âme dans ce tumulte puéril ou vicieux qui en détruit toute l'énergie. En outre, il lui faut de temps en temps, comme à ces gens habitués à prendre des liqueurs pour se monter la tête, une intrigue pour animer son cœur, qui ne goûte plus que des plaisirs fortement assaisonnés de crainte ou d'espérance. Les femmes mariées se conduisent quelquefois avec plus d'audace. Je vais en citer un exemple. Une femme de qualité, connue pour ses galanteries, quoique personne ne la rangeât dans la classe où elle devait être, parce qu'elle vivait encore avec son mari, eut l'impudence de traiter avec le mépris le plus insultant une pauvre créature timide, honteuse d'une première faiblesse commise avec un gentilhomme du voisinage, qu'il avait pourtant épousée après l'avoir séduite. Cette femme confondait la vertu avec la réputation, et je crois qu'elle s'estimait infiniment pour s'être respectée avant son mariage, quoique, cette alliance une fois arrangée à la satisfaction de leur famille, les deux époux eussent été également infidèles l'un à l'autre, de sorte que leur chétif rejeton, héritier d'une fortune immense, était arrivé on ne sait trop d'où. Mais envisageons ce sujet sous un autre point de vue. J'ai connu un grand nombre de femmes qui, si elles n'aimaient pas leur mari, n'aimait du moins pas ailleurs. Eh bien, fière de cette fidélité négative, elle se livrait entièrement à la vanité, à la dissipation, et négligeait tous leurs devoirs domestiques. Il y a plus, jetant par les fenêtres un argent qu'elles auraient dû ménager pour assurer l'éducation ou le bien-être de leurs enfants, elles se targuaient d'une réputation sans tache, comme si tous leurs devoirs en qualité de femme et de mère se fussent bornés à la conserver. On a vu d'autres femmes indolentes négliger tous leurs devoirs particuliers et croire mériter le cœur de leur époux parce qu'elles étaient fidèles à celui qui, bien que le principal, n'est pourtant pas le seul. Les âmes faibles aiment toujours à se reposer sur l'observance extérieure des devoirs. Mais la morale nous offre des motifs bien plus simples et il serait à désirer que des écrivains superficiels dans ce genre eussent moins parlé du maintien et des pratiques du dehors. Car à moins qu'une vertu, de quelque espèce qu'on la suppose, ne soit appuyée sur la conviction qui résulte des lumières, elle ne produira qu'une sorte de décence insipide. Cependant, on a fait du respect humain le principal devoir de la femme, témoin Rousseau qui déclare l'honneur et la réputation non moins indispensables que la chasteté et qui ajoute quelques pages plus loin « L'homme, en bienfaisant, ne dépend que de lui-même et ne peut braver le jugement public. » Mais la femme, en bienfaisant, n'a fait que la moitié de sa tâche, et ce que l'on pense d'elle ne lui importe pas moins que celle qu'elle est en effet. Il suit de là que le système de son éducation doit être à cet égard contraire à celui de la nôtre. L'opinion est le tombeau de la vertu parmi les hommes et son trône parmi les femmes. C'est-à-dire, où toutes les règles de la logique sont fausses, que la vertu qui repose sur l'opinion est purement humaine et qu'elle est celle d'un être à qui le ciel a refusé la raison. Ce prix que l'on attache à la réputation, abstraction faite de ce qu'elle est une des récompenses naturelles de la vertu, est venu d'une cause dont j'ai déjà gémi. La regardant comme celle qui a le plus dépravé les femmes, je veux dire l'impossibilité de regagner l'estime publique par un retour sincère à la vertu, estime que les hommes conservent d'ordinaire, même pendant le temps qu'ils se livrent aux vices. Il était donc naturel aux femmes de tâcher de conserver, à quelque prix que ce fût, ce qui, une fois perdu, l'était pour jamais. Et ce soin absorbant tous les autres, la réputation d'honnêteté est devenue la seule chose qu'on ait exigée de mon sexe. Mais les scrupules de l'ignorance sont bien mal fondés, car ni la religion ni la vertu, quand elles résident dans un cœur, ne demandent une attention si puérile à de pures cérémonies, parce qu'après tout le maintien aura nécessairement de la décence quand les motifs dont la personne est animée seront purs. Je puis citer à l'appui de mon opinion une autorité bien respectable, et certes l'autorité d'un philosophe qui raisonne de sang-froid, quoiqu'elle ne puisse établir à elle seule un sentiment, doit du moins prêter quelque poids à une considération. Le docteur Smith, en parlant des lois générales de la morale, observe que quelques circonstances extraordinaires et malheureuses peuvent faire soupçonner un honnête homme d'un crime dont il a toujours été incapable, et d'après cela l'exposer injustement à se voir, pour le reste de sa malheureuse vie, l'objet de l'exécration du genre humain. On peut dire qu'un pareil malheur lui fait perdre, malgré son innocence et sa probité, tout ce qu'il possède. De même que l'homme le plus prudent peut être ruiné, malgré toute sa circonspection, par une inondation ou un tremblement de terre. Cependant, des accidents du premier genre sont peut-être plus rares et plus opposés à la marche ordinaire des choses que ceux du second. Et il n'en reste pas moins vrai que la pratique de la vérité, de la justice et de l'humanité offre un moyen sûr et presque infaillible d'acquérir ce que ses vertus méritent et désire surtout d'obtenir la confiance et l'amitié des gens avec qui nous vivons habituellement. On peut aisément mal interpréter la conduite d'une personne dans une occasion particulière, mais il n'est guère possible de la présenter dans tous ses points sous un faux jour. J'admets que l'on pourra croire qu'un homme honnête a failli, mais cela n'arrivera que rarement. Au contraire, l'opinion bien établie de la pureté de ses mœurs nous conduira souvent à le juger innocent, nonobstant les plus fortes présomptions, dans une conjoncture où il aura réellement mal fait. Je suis entièrement de l'avis de cet écrivain, et je crois que bien peu de personnes, de l'un ou de l'autre sexe, ont été méprisées pour certains vices, sans mériter effectivement de l'être. Je ne parle pas de la calomnie du moment qui flotte sur un caractère comme un de ces brouillards épais de novembre sur la capitale, jusqu'à ce qu'il tombe et se dissipe par degrés à la lumière d'un jour ordinaire. Je prétends seulement que la conduite habituelle de la majeure partie des hommes réussit à se faire apprécier ce qu'elle vaut. L'ignorance a-t-elle conçu d'elle-même des soupçons, ou lui ont-ils été suggérés par l'envie de nuire? Rassurez-vous, la vérité saura bien se faire jour insensiblement et dissiper les taches dont elles avaient couvert injustement un caractère pur. La réputation s'est trouvée éclipsée pour un moment dans l'ombre, mais le nuage qui faisait voir les choses sous un faux jour une fois écarté, l'œil public manque rarement d'estimer juste ce qu'il distingue d'une manière bien nette. Sans doute, beaucoup de gens obtiennent une réputation meilleure, à plusieurs égards, qu'ils ne le mériteraient, si l'on voulait se rendre difficile. Car dans toutes les courses de chevaux, une industrie active, et qui sait ne pas se relâcher, est à peu près sûre de gagner les paris. Ceux qui ne visent qu'à cette chétive récompense, comme les pharisiens qui priaient au coin des rues pour se faire remarquer, obtiennent ordinairement le prix qu'ils cherchent, parce qu'après tout, l'homme ne saurait lire dans le cœur de l'homme. Mais la bonne réputation, produit naturel des bonnes actions de l'homme qui ne cherche qu'à marcher droit sans s'inquiéter des spectateurs, est en général non seulement de meilleure alloi, mais même plus aisée à obtenir. Il existe, il est vrai, des épreuves cruelles où l'homme de bien ne peut qu'en appeler à Dieu de l'injustice des hommes, où il est obligé de s'envelopper de sa vertu comme d'un manteau, de redescendre dans l'asile de sa propre conscience, jusqu'à ce que les serpents de l'envie aient cessé de siffler, que les clameurs du vulgaire déçu se soient apaisées. Il y a plus, les traits empoisonnés des injustes reproches peuvent quelquefois percer, déchirer même un cœur innocent et sensible. Mais par bonheur, ce sont là des exceptions rares aux règles générales. Et c'est d'après les règles ordinaires qu'il faut régler sa contenance. On ne tient jamais compte, dans les calculs astronomiques, de l'excentricité de l'orbite de la comète, qui n'est rien par rapport à l'ordre invariable établi dans les mouvements des principaux corps célestes du système solaire. J'ose donc assurer que lorsqu'un homme est parvenu à la maturité, sa réputation est faite dans le monde, sauf quelques exceptions dont j'ai déjà parlé. Je ne dis pas qu'un homme prudent et mondainement sage, avec des vertus et des qualités purement négatives, ne puisse quelquefois obtenir une réputation plus brillante qu'un autre plus sage et meilleur que lui. Je suis fondé, au contraire, à conclure, d'après l'expérience, que de deux personnes presque égales en vertu, celle dont le caractère sera plus négatif plaira davantage dans le monde, tandis que l'autre aura plus d'amis dans la vie privée. Mais quoique les inégalités qu'on remarque dans les vertus des grands hommes soient plus prononcées, quoiqu'elles offrent à la faiblesse envieuse le but certain vers lequel elle doit diriger ses coups, le vrai caractère, en dépit des éclaboussures de la malice ingénieuse, n'en jette pas moins son éclat. Je ne ferai point de commentaires sur cette susceptibilité de réputation, sur l'attention avec laquelle on l'analyse. Mais je suis effrayé de voir la moralité tellement défigurée chez les femmes que l'apparence absorbe tous leurs soins et leur fait négliger la réalité. C'est ainsi qu'une chose toute simple devient étrangement compliquée. Il arrive même quelquefois que la vertu et son simulacre varient suivant les circonstances. Nous n'aurions peut-être jamais entendu parler de Lucrèce si elle était morte pour conserver sa chasteté au lieu de s'immoler à sa réputation. Si nous méritons réellement la bonne opinion que nous avons de nous-mêmes, nous sommes ordinairement respectés dans le monde. Cependant, si nous aspirons à une plus grande perfection, il ne suffit pas de nous voir comme nous supposons que les autres nous voient, quoiqu'on ait ingénieusement présenté cette méthode comme la base de nos sentiments moraux, parce que chaque spectateur peut avoir ses propres préjugés, outre les préjugés de son âge ou de son pays. Nous devons plutôt tâcher de nous considérer comme nous supposons que doit nous voir l'être qui met nos pensées en action et dont le jugement ne s'écarte jamais de l'éternelle rectitude. L'équité préside à tous ces jugements, ils sont justes et miséricordieux. L'esprit humble qui cherche à trouver grâce devant lui et qui s'examine tranquillement en sa présence se trompe rarement sur ses propres vertus. C'est pendant l'heure du recueillement que le repentir se livre à la ferveur de la prière. On le reconnaît, dis-je, dans le sentiment pur qui unit l'homme à la divinité. On le reconnaît, dis-je, dans le sentiment pur d'une adoration révérencieuse qui remplit le cœur sans exciter de tumultueuses émotions. Dans ces moments solennels, l'homme découvre le germe de ses vices qui, semblable à l'arbre de Java, répandent aux environs une vapeur empoisonnée. Leur ombre est mortelle. Mais il les découvre sans horreur parce qu'il se sent attiré lui-même par une chaîne d'amour vers ses semblables, aux folies desquelles il voudrait trouver une excuse dans leur nature, c'est-à-dire en lui-même. Car il peut raisonner de la manière suivante. Si moi qui ai exercé mon esprit, qui ai été épuré par les disgrâces, je trouve l'œuf du serpent dans quelques plis de mon cœur, si je ne l'écrase qu'avec difficulté, pourrais-je ne pas compatir à la faiblesse de ceux qui n'ont pu l'écraser, ou qui ont imprudemment nourri l'insidieux reptile jusqu'à ce qu'il ait empoisonné chez eux la source de la vie? Puis-je, avec le sentiment de mes fautes secrètes, repousser mes semblables et les voir tranquillement tomber dans l'abîme de perdition qui s'entr'ouvre pour le dévorer? Non, non, le cœur oppressé doit crier avec une impatience suffocante, et moi aussi je suis homme. J'ai des vices peut-être ignorés de mes semblables, mais qui m'humilient devant Dieu, et qui, lorsque tout garde le silence, me disent hautement que nous sommes formés de la même terre et nourris du même élément. C'est ainsi que l'humanité s'élève naturellement du sein de l'humilité et tresse des liens de bienveillance qui enlacent le cœur et l'empêchent de s'isoler. Cette sympathie s'étend encore plus loin, jusqu'à ce que l'homme satisfait découvre de la force dans des raisonnements qui ne peuvent opérer sa conviction. Il place dans un plus beau jour pour lui-même les apparences de raison qui ont égaré les autres et s'applaudit de trouver quelque excuse à toutes leurs erreurs, quoiqu'il sache très bien que celui qui dirige la marche du soleil le fait briller sur toute la nature. Cependant, secouant ses mains comme si elles avaient touché quelque chose d'impur, un pied sur la terre et de l'autre s'élevant hardiment vers les cieux, il demande à partager la béatitude des êtres d'un ordre supérieur. À cette heure rafraîchissante, des vertus ignorées des hommes répandent leur céleste parfum. La terre altérée et rafraîchie tout à coup par les sources pures de la consolation se couronne d'une riante verdure. Tel est le spectacle vivant et enchanteur qui regarde avec complaisance l'œil trop pur pour voir l'iniquité. Mais mes forces m'abandonnent. Je me livre silencieusement à la douce rêverie dans laquelle m'ont conduit ces réflexions, sans pouvoir décrire les sentiments qui ont porté le calme dans mon âme, lorsque, observant le lever du soleil, une douce rosée coulant à travers les feuilles des arbres voisins semblait tomber sur mes esprits abattus, mais tranquilles, et venir rafraîchir un cœur brûlé par des passions que la raison s'efforçait de vaincre. Les principes qui m'ont guidé dans toutes mes recherches rendraient inutiles de plus longs développements si l'attention constante à maintenir frais et en bon état le vernis du caractère n'était souvent présentée comme l'unique devoir des femmes. Si les documents pour régler la conduite et conserver la réputation n'étaient pas aussi fréquemment préférés aux obligations morales. Mais à l'égard de la réputation, toute la sollicitude se borne à une seule vertu, la chasteté. Pourvu qu'une femme conserve ce qu'on appelle absurdement son honneur, elle peut négliger tous les devoirs sociaux, ruiner même sa famille par le jeu, par l'extravagance, sans qu'elle ait à rougir, car dans le fait, c'est une femme honorable. Madame Macaulay a judicieusement observé qu'il n'y a qu'une seule faute qu'une femme d'honneur ne puisse commettre impunément. Elle ajoute, c'est ce qui a donné lieu à cette observation folle et vulgaire, que dans une femme, une première faute contre la chasteté a le pouvoir radical de dépraver le caractère. Mais la nature ne produit pas des êtres aussi fragiles, et l'esprit humain est formé d'éléments trop sublimes pour être aussi aisément corrompu. Malgré tous les désavantages de leur condition et de leur éducation, il est rare que les femmes s'abandonnent entièrement si elles ne sont jetées dans un état de désespoir par la venimeuse animosité de leur propre sexe. Mais autant ce soin de la réputation de chasteté est vanté par les femmes, autant il est méprisé par les hommes, et les deux extrêmes sont également destructifs de la moralité. Les hommes sont certainement plus déterminés par leurs appétits que les femmes. Et leurs appétits sont encore plus dépravés par l'indulgence illimitée et par les artifices de la satiété. Le luxe a introduit dans le manger un raffinement qui détruit la constitution et un degré de gloutonnerie si dégoûtant qu'il faut qu'on ait perdu toute idée de bienséance avant qu'un homme ait pu se permettre de manger immodérément devant un autre et se plaindre ensuite de l'incommodité naturellement occasionnée par son intempérance. Quelques femmes, particulièrement les Françaises, ont aussi perdu tout sentiment de décence à cet égard, car elles parlent fort tranquillement d'une indigestion. Il serait à désirer que l'oisiveté n'eût pas engendré, sur le sol fertile de l'opulence, cette foule d'insectes d'été qui se nourrissent de putréfaction, nous n'aurions pas eu le dégoût de voir de tels excès de brutalité. Il est une règle de conduite qui, je crois, peut suppléer à toutes les autres. Elle consiste simplement à avoir pour nos semblables un respect habituel qui nous fasse préférer la décence à la satisfaction du moment. La honteuse indolence de la plupart des femmes mariées et de quelques autres un peu avancées en âge les porte fréquemment à manquer à la délicatesse. Car, quoique convaincue que la personne est le lien d'union entre les deux sexes, combien de fois n'excite-t-elle pas le dégoût par leur indolence ou pour jouir de quelques légères satisfactions? La dépravation de l'appétit qui rapproche les deux sexes a entraîné des suites plus funestes encore. La nature doit toujours être le guide du goût et la mesure de l'appétit. Cependant, comme elle est grossièrement outragée par le voluptueux, laissant de côté les raffinements de l'amour, la nature, à cet égard, comme à tout autre, a attaché du plaisir aux besoins. Une loi naturelle et impérieuse, pour la conservation des espèces, exalte l'appétit et mêle quelque chose d'intellectuel et de sentimental au désir sensuel. Les sentiments de la paternité, mêlés à un instinct purement animal, lui donnent de la dignité. L'homme et la femme s'accordent souvent dans leur rapport à leur enfant, l'intérêt mutuel et l'affection sont excités par l'exercice d'une commune sympathie. Les femmes ayant alors nécessairement à remplir quelques devoirs plus nobles que celui d'orner leur personne, ne se réduiraient point à être les esclaves d'une brutalité accidentelle. Voilà cependant la condition présente d'un très grand nombre de femmes qui, littéralement parlant, peuvent être considérées comme des plats auxquels il est libre à chaque glouton de porter la main. On pourrait m'objecter que, quelque énorme que soit cet abus, il n'attaque qu'une partie dévouée du sexe, et dévouée, après tout, pour le salut du reste. Mais il serait facile de prouver que cette assertion est aussi fausse que toute autre, qui recommande de sanctionner un petit mal pour produire un plus grand bien. L'inconvénient pour le caractère moral ne s'arrête pas là, et l'on peut dire que la paix de l'âme de la partie la plus chaste du sexe est troublée par la conduite de ces mêmes femmes, auxquelles elles ne permettent point de se réfugier des bras du vice dans ceux de la vertu. Ces infortunées qu'elles ont la barbarie de condamner pour jamais à exercer les artifices qui leur arrachent leurs époux et débauchent leurs fils, les forcent à leur tour à prendre le même caractère qui leur inspire tant de mépris. En effet, j'ose assurer que toutes les causes de la faiblesse et de la dépravation des femmes que j'ai développées jusqu'ici émanent d'une seule, la plus funeste, je veux dire le manque de chasteté dans les hommes. Cette intempérance, malheureusement trop commune, déprave l'appétit de la nature à un tel degré qu'il faut l'aiguillon des voluptés indécentes pour le relever. Cependant, on oublie le vœu maternel de cette nature qu'on outrage, et l'unique chose qui occupe la pensée, encore n'est-ce que pour un moment, c'est l'agrément extérieur de la personne. Le libertin qui cherche sa proie devient quelquefois si voluptueux qu'il raffine, dans ses goûts honteux, sur la délicatesse propre aux femmes qui ne lui suffit plus. Aussi voit-on en Italie et en Portugal des hommes se trouver au lever d'êtres équivoques et en solliciter des faveurs monstrueuses. Les femmes se sont rendues voluptueuses par système pour plaire à cette espèce d'homme, et quoique toutes ne portent pas leur libertinage au même point, ces rapports, où le cœur n'entre pour rien, portent la dépravation d'un sexe sur l'autre, de sorte qu'ils se trouvent tous les deux corrompus, parce que le goût des hommes est vicié, et que les femmes de toutes les classes règlent naturellement leur maintien sur le goût dominant qui leur vaut de l'influence et du plaisir. Les femmes, devenant en conséquence plus faibles de corps et d'âme qu'elles ne devraient l'être, ne répondent plus à une de leurs grandes destinations, celle de porter et nourrir des enfants, premier devoir d'une mère de famille, que leur débilité les met hors d'état de remplir, et sacrifiant à des goûts lascifs l'affection maternelle qui anoblit l'instinct, détruisent l'embryon dans leur sein coupable ou l'abandonnent quand il en est sorti. La nature veut qu'on la respecte dans tout et ceux qui violent ses lois le font rarement avec impunité. Les femmes faciles et énervées, qui attirent particulièrement l'attention des libertins, ne sont pas propres à être mères, quoi qu'elles puissent concevoir. De sorte que le riche épicurien qui a dissipé ses forces et sa vie parmi les femmes, en répandant la dépravation et l'opprobre, quand il veut perpétuer son nom, ne reçoit plus de son épouse qu'un être à demi formé, malheureux héritier de la double faiblesse de son père et de sa mère. On a mis en opposition l'humanité du siècle présent avec la barbarie de l'Antiquité, et l'on n'a pas manqué d'insister sur la cruelle coutume d'exposer les enfants que leurs parents ne pouvaient nourrir. Peut-être l'homme, qui se pare ainsi d'une fausse sensibilité, a-t-il contribué par ses amours vulgivagues à produire une stérilité plus destructive et une dépravation de mœurs plus contagieuse. Sûrement, la nature n'a jamais voulu que les femmes, en satisfaisant un appétit physique, frustrassent précisément le but pour lequel elle le leur a donné. J'ai observé précédemment que les hommes doivent nourrir les femmes qu'ils ont séduites. Ce serait un des moyens de réformer les mœurs des femmes et d'arrêter un abus également funeste à la population et à la morale. Un autre moyen, aussi convenable, consisterait à tourner l'attention des femmes vers la vertu réelle de chasteté. Car celle qui sourit aux libertins, multipliant les victimes de ses passions sans frein et de leur propre folie, a bien peu de droit au respect, surtout à celui qu'on paye à la modestie, quand même elle serait d'une réputation sans tache. Je dirais plus, elle a une teinte de la même folie, quelque pure qu'elle s'estime elle-même, celle qui se pare soigneusement dans la simple vue d'être remarquée par les hommes, de leur arracher des soupirs et d'en obtenir tout ce vain culte qu'on appelle innocente galanterie. Si les femmes respectaient réellement la vertu pour elles-mêmes, elles ne chercheraient point dans la vanité de dédommagement de l'abnégation qu'elles sont obligées de pratiquer afin de conserver leur réputation. Elles ne fréquenteraient pas non plus des hommes qui peuvent les compromettre. Les deux sexes se corrompent et se perfectionnent réciproquement. C'est là, je crois, une vérité incontestable, et l'on peut étendre ce principe à toutes les vertus. La chasteté, la modestie, l'esprit public, et toute la suite des qualités respectables sur lesquelles repose le bonheur et la vertu sociale doivent être connues et cultivées par tout le genre humain, ou elles le seront avec bien peu de fruits, si ce n'est que partiellement. Au lieu de fournir aux vicieux et aux lâches un prétexte pour violer quelque devoir sacré, en l'appelant seulement un devoir sexuel, on ferait plus sagement de leur montrer que la nature n'y a mis aucune différence. Et même que l'homme qui se permet de n'être point chaste attaque doublement son but, en rendant les femmes stériles et en détruisant sa propre constitution, quoiqu'il échappe à la honte qui poursuit le même crime dans l'autre sexe. Telles sont les conséquences physiques. On trouvera les morales encore plus alarmantes, car la vertu n'est plus qu'un mot quand les devoirs de citoyen, d'époux, de femme, de père et de mère, et de chef de famille ne lient plus les différents membres de la société, devenus égoïstes, que par de simples convenances. Où les philosophes s'amusent-ils donc à chercher l'esprit public? L'esprit public doit nécessairement être nourri par les vertus privées, autrement il ressemblera à ce sentiment factice qui fait un devoir rigoureux aux femmes de conserver leur réputation et aux hommes leur honneur. Un sentiment qui existe souvent sans avoir pour base la vertu, ou cette sublime morale, aux yeux de laquelle l'infraction habituelle d'un devoir devient celle de toute la loi morale. Chapitre 9. Des effets pernicieux qui résultent des distinctions contre nature établies dans la société. C'est du respect qu'on a pour la propriété, surtout de celle qui s'élève jusqu'à la richesse, que découle, comme d'une source empoisonnée, la plupart des maux et des vices qui font de ce monde une scène si effrayante pour l'œil du contemplateur. Car c'est dans la société la plus policée que des reptiles nuisibles et des serpents venimeux rampent sous des gazons parsemés de fleurs. Et c'est encore là que la volupté, animée par un air brûlant, dessèche toutes les bonnes dispositions avant qu'elles mûrissent jusqu'à devenir des vertus. Une classe de citoyens en opprime une autre parce qu'elles visent toutes à se faire rendre du respect à cause des propriétés qu'elles possèdent. Et malheureusement, cette propriété, lorsqu'on a réussi à se la procurer, attire la considération qu'on ne doit qu'aux vertus et aux talents. des âmes osent négliger les devoirs les plus sacrés de l'homme, ils n'en sont pas moins traités comme des demi-dieux. Un voile, tissu de vaines cérémonies, sépare la religion de la morale, et l'on est étonné que ce monde ne soit, à peu de choses près, qu'une caverne de brigands. On emploie chez nous ce proverbe qui rend très bien une triste vérité. C'est que quand le diable trouve un homme moisif, il le fait travailler pour son compte. Et que peut-on attendre d'une opulence et des titres héréditaires, sinon une oisiveté habituelle? Car l'homme est fait de manière qu'il ne peut apprendre à faire un bon usage de ses facultés qu'en les exerçant. Et il ne les exercera pas, à moins qu'un besoin de quelque espèce ne mette les rouages en jeu. On ne saurait non plus acquérir la vertu que par l'accomplissement de ses devoirs relatifs. Mais il est difficile que l'importance de ce devoir sacré soit sentie par un être cajolé par des fripons de flatteurs qui lui répètent qu'il est au-dessus de l'humanité. Qu'on ne s'y méprenne donc pas. Il faut établir plus d'égalité dans la société si l'on veut que le règne de la morale s'établisse. Et cette égalité, source de la vertu, ne se soutiendrait pas, fût-elle assise sur un rocher, tant qu'une moitié de l'espèce humaine y sera enchaînée par son destin. Soit ignorance, soit orgueil, cette malheureuse moitié travaillera toujours à miner ce piédestal pour s'en détacher. Il est inutile de compter sur la vertu des femmes tant qu'elles ne seront pas, jusqu'à un certain point, indépendantes des hommes. Il est également superflu d'en attendre cette force d'affection naturelle qui les rendrait bonnes épouses et bonnes mères. Toutes les fois qu'elles vivront dans une dépendance absolue de leur mari, elles seront rusées, chétives et vaines. Les hommes qui ne peuvent se contenter de cajolerie et de mignardise n'ont pas beaucoup de délicatesse, car l'amour ne peut être compensé par rien. Il perd tous ses charmes quand on cherche autre chose en lui que lui-même. Cependant, tant que la richesse énervera les hommes et que les femmes vivront, pour ainsi dire, sous leurs attraits personnels, comment pouvons-nous espérer qu'elles remplissent ces honorables devoirs qui demandent également l'activité et l'abnégation de soi-même? La propriété héréditaire fausse le jugement, et ceux qui en sont les victimes, si je puis m'exprimer ainsi, emmaillotés dès leur enfance, exercent rarement la faculté locomotive de leur corps ou de leur esprit. Ils ne voient les choses qu'à travers un faux milieu qui les empêche de découvrir en quoi consiste le vrai mérite et le vrai bonheur. L'homme ne jouit en effet que d'une lumière trompeuse lorsque, caché sous la draperie de la situation, il passe avec une stupide indifférence de dissipation en dissipation, et porte surtout un œil insignifiant qui nous dit assez que la raison ne l'anime pas. Je crois donc que la société n'est pas convenablement organisée quand elle n'excite point les hommes et les femmes à remplir leurs devoirs respectifs en plaçant dans leur accomplissement l'unique moyen d'arriver aux distinctions que tous les êtres humains désirent obtenir. Il s'ensuit que le respect pour la richesse et pour les charmes de la personne est un véritable vent de nord-est qui flétrit les fleurs printanières de l'affection et de la vertu. La nature a sagement attaché les affections au devoir, au travail modéré, afin de fournir aux opérations de la raison la force que le cœur seul peut leur donner. Mais quand on ne montre de l'affection que parce qu'elle est la marque distinctive d'un certain état, si l'on n'en remplit pas les devoirs, ce n'est qu'un vain compliment que le vice et la folie font à la vertu et à la réalité des choses. Pour éclaircir mon opinion, il me suffira d'observer qu'une femme admirée pour sa beauté et qui se laisse enivrer de cette admiration, au point de négliger le devoir indispensable de la maternité, cette femme, dis-je, pêche contre elle-même en exigeant de cultiver une affection qui pourrait à la fois la rendre utile et heureuse. Je pense que le vrai bonheur, c'est-à-dire tout le contentement et toute la satisfaction vertueuse que nous pouvons obtenir dans un état d'imperfection, provient du bon règlement de nos affections, et une affection comprend un devoir. Les hommes ne songent point au malheur qu'ils causent, ni à la vicieuse faiblesse qu'ils caressent, lorsqu'ils exhortent les femmes à se rendre uniquement agréables. Ils ne font pas attention que le sexe étant fait pour tout harmonier dans la nature, ils mettent en opposition le devoir naturel et le devoir artificiel, en sacrifiant la consolation et la dignité de la vie des femmes à des notions voluptueuses de beauté. Quand une débauche prématurée n'aurait point dénaturé le cœur, il faut qu'il soit bien froid, celui d'un époux qui, voyant son enfant allaité par sa mère, ne trouve pas ce plaisir préférable à tout ce que la coquetterie a de plus recherché. Cependant, ce moyen naturel de cimenter l'union conjugale et de fonder l'estime sur de tendres souvenirs, la richesse porte les femmes à les dédaigner. Pour conserver leur beauté, pour ceindre leur front de la couronne de fleurs qui leur donne une espèce de droit à une courte domination, elles négligent de faire sur le cœur de leurs époux des impressions dont, quand l'âge aurait blanchi leur tête, ils se rappelleraient avec plus de tendresse que les charmes mêmes de leur virginité. La sollicitude maternelle d'une femme sensible et raisonnable est très intéressante, et la chaste dignité avec laquelle une mère rend les caresses qu'elle et son enfant ont reçues d'un père qui a rempli les devoirs sérieux de son état est un des plus beaux spectacles qu'il soit possible d'envisager. En effet, mes sentiments sont si singuliers, et je n'ai pas cherché à m'en donner de factice, qu'après avoir été fatigué du spectacle de l'insipide grandeur et des cérémonies serviles qui, avec une pompe embarrassante, remplacent les affections domestiques, je porte mes regards sur quelque autre scène pour me soulager. Je les arrête sur un gazon frais répandu çà et là par la nature. J'ai donc vu avec plaisir une femme nourrir ses enfants et remplir en même temps les devoirs de son état, sans peut-être partager avec personne les soins du ménage. Je l'ai vue se parer elle-même et orner ses enfants sans autre luxe que celui de la propreté pour recevoir son mari qui, revenant le soir fatigué à la maison, y trouvait un feu clair et le sourire de sa petite famille. Mon cœur se fixait au milieu du groupe et palpitait même d'une émotion sympathique quand le bruit d'un pied, sur lequel on ne se méprenait pas, excitait un agréable tumulte. Quand j'ai eu la satisfaction de contempler ce tableau naïf, j'ai pensé que deux époux de ce genre, nécessaires l'un à l'autre, et cependant vivant dans une dépendance mutuelle, parce que chacun remplit ses devoirs, j'ai pensé, dis-je, qu'ils possédaient tout ce qu'on peut attendre de la vie. Assez élevés au-dessus de la pauvreté pour n'être pas obligés de peser les suites de chaque liard qu'ils dépensent, n'étant pas par conséquent astreints à un froid système d'économie qui rétrécit à la fois le cœur et l'esprit. En vérité, mes conceptions sont si vulgaires que j'ignore ce qui peut manquer à cette situation pour la rendre la plus heureuse et la plus respectable qui soit au monde. Je n'y désirerais qu'un peu de goût pour la littérature, afin de jeter quelques variétés dans la conversation, et quelque argent pour donner aux besoins et pour acheter quelques livres. Car quand le cœur s'ouvre à la compassion et que la tête active arrange des plans d'utilité, il n'est point agréable d'avoir un joli marmot qu'il vous tire continuellement le coude en arrière pour vous empêcher de porter la main à une bourse presque vide et qu'il semble l'entendre en même temps chuchoter quelques prudentes maximes sur la préférence qu'on doit à la justice. Cependant, quelque pernicieux que soient au caractère humain les honneurs héréditaires et les richesses, les femmes en sont, s'il est possible, plus dégradées et plus avilies que les hommes, parce que ceux-ci peuvent toujours, jusqu'à un certain point, développer leurs facultés en devenant militaires et hommes d'État. À l'égard des militaires, je soutiens que la plupart ne peut maintenant acquérir qu'une vaine gloire, n'étant occupée qu'à maintenir la balance de l'Europe, à empêcher qu'aucun point du Nord ou du Midi n'en dérange l'équilibre. Les jours du véritable héroïsme, c'est lorsqu'un citoyen combat pour son pays, comme Fabricius ou Washington, et qu'ensuite, revenu dans ses foyers, il donne à son intrépide vertu une direction plus douce, quoique non moins salutaire. Mais nos héros britanniques sont plus souvent tirés du tripot que de la charrue. Leurs passions se sont enflammées par l'attente d'un tour de dés plutôt qu'elles ne se sont anoblies en suivant impatiemment la marche audacieuse de la vertu dans la page de l'histoire. L'homme d'État, il est vrai, peut plus convenablement passer d'une banque de pharaon au timon du gouvernement, car c'est encore de la ruse et de la piperie qu'on lui demande. Tout le système politique de la Grande-Bretagne, si l'on peut honnêtement l'appeler système, ne consiste qu'à multiplier les sous-ordres et à imaginer des taxes qui écrasent le pauvre pour engraisser le riche. C'est ainsi qu'une guerre ou quelque autre entreprise extraordinaire est un heureux moyen de défense pour le ministre, dont le principal mérite est de savoir se maintenir en place. Il n'est donc pas nécessaire qu'il ait des entrailles pour le pauvre. Il lui suffit de fournir à la prodigalité de sa famille. Si pour duper le peuple rétif qu'il doit mener par le nez, il est à propos de montrer quelque apparence de respect pour ce qu'on appelle, avec une ignorante ostentation, le droit de naissance d'un Anglais, il lui sera facile d'en imposer en donnant sa seule voix et en souffrant que son léger escadron passe de l'autre côté. Si l'on agite une question d'humanité, il peut jeter le gâteau dans la gueule de Cerbère, parler de l'intérêt que son cœur prend à un projet qui doit empêcher la terre de crier plus longtemps vengeance pour le sang des enfants, quoique, dans le même instant, ils rivent leur fer en sanctionnant l'abominable traite. Un ministre ne l'est qu'aussi longtemps qu'il vient à bout de ses projets. Il n'est pourtant pas nécessaire qu'un ministre sente comme un homme lorsqu'un coup hardi frappe son siège. Mais quittons ces observations épisodiques et revenons à un genre d'esclavage plus spécieux qui enchaîne l'âme même des femmes en les retenant à jamais sous le lien de l'ignorance. Les fausses distinctions de rang qui font le malheur de la civilisation, par la division du monde en tyrans voluptueux et en esclaves rusés et jaloux, ces fausses distinctions corrompent également toutes les classes de la société, parce qu'on n'attache point le respect au devoir, mais à l'État. Et quand les devoirs ne sont pas remplis, les affections ne peuvent acquérir l'énergie suffisante pour fortifier la vérité dont elles sont la récompense naturelle. Encore reste-t-il quelques issues à l'homme pour penser et pour agir par lui-même. Mais à l'égard de la femme, c'est un travail d'Hercule, parce qu'elle a des difficultés particulières à son sexe à surmonter, difficultés qui exigent presque une force surhumaine. Un bon législateur tâche toujours d'intéresser tous les individus à la vertu. C'est ainsi que la vertu privée devient le gage du bonheur public et que le bon ordre de tout se trouve consolidé par la tendance de toutes les parties vers un centre commun. Mais la vertu privée au public de la femme est très problématique, car Rousseau et plusieurs écrivains de l'autre sexe soutiennent que sa vie doit être soumise à une sévère contrainte, celle de la propriété. Mais pourquoi la soumettre à cette condition si elle est capable d'agir d'après le plus noble principe, si l'immortalité doit être son partage? Le sucre sera-t-il toujours le produit d'un sang vital? Faudra-t-il que, semblable à ces pauvres esclaves africains, que des préjugés brutaux asservissent, lorsque des principes seraient un moyen bien plus sûr de les retenir, faudra-t-il, dis-je, qu'une moitié de l'espèce humaine soit traitée comme eux, uniquement pour sucrer la coupe de l'homme? N'est-ce pas indirectement refuser la raison à la femme? Car un présent n'est qu'une moquerie si l'on ne peut en faire usage. Les hommes et les femmes sont affaiblis et amollis par les plaisirs énervants que procure la richesse. Mais ajoutons que celles-ci sont esclaves de leur personne et qu'il faut qu'elles se rendent attrayantes pour que l'homme leur prête sa raison et dirige leurs pas chancelants. Les supposerons-nous ambitieuses, il faudra qu'elles gouvernent leurs tyrans par des ruses malhonnêtes, car où il n'y a point de droit, il ne saurait non plus se trouver de devoir, et les lois relatives à mon sexe, que je discuterai peut-être quelques jours, font un tout, une unité absurde de l'homme et de la femme. Ensuite, par une transition facile qui ne fait porter la responsabilité que sur elle, on ne tarde pas à la regarder comme un zéro. L'être fidèle au devoir de son poste est ou doit être indépendant, et pour considérer les femmes en grand, leur premier devoir se rapporte à elles-mêmes en qualité de créature raisonnable. Le plus important après est celui de citoyenne. Vient enfin celui de mère qui en renferme tant d'autres. Un rang distingué dans la société, dont la prérogative est de les dispenser de ce dernier devoir, les dégrade nécessairement, puisqu'il ne fait d'elles que de vaines poupées. Leur supposons-nous une occupation plus importante que de s'amuser à draper une belle statue de marbre? Eh bien, alors elles sont entièrement livrées à quelque amour platonique ou la conduite de quelque intrigue remplit actuellement toutes leurs pensées. Car en négligeant leurs devoirs domestiques, elles n'ont point la ressource d'entrer en campagne, d'exécuter des marches, des contre-marches, des évolutions militaires ou de disputer dans le Sénat pour préserver leur faculté morale de la rouille. Je sais que Jean-Jacques Rousseau, voulant prouver l'infériorité de mon sexe, s'est écrié d'un ton triomphant « Comment peuvent-elles abandonner un nourrisson pour un camp ?» Et quelques moralistes ont regardé la guerre comme l'école des plus héroïques vertus. Cependant, je crois que le casuiste le plus habile serait bien embarrassé à mettre d'accord avec la raison le plus grand nombre de ces guerres qui nous ont créé des héros. Je ne me propose pas d'examiner cette question en critique, parce qu'ayant souvent regardé ces boutades de l'ambition comme le premier mode naturel de la civilisation, quand il fallait retourner le terrain et éclaircir par le fer et le feu les bois qui le couvraient, je n'oserais en conséquence les appeler des pestes. Adoptée aujourd'hui, naguère de liaison, avec aucune vertu de quelque genre que ce soit, étant plutôt l'école de la finesse et de l'amollissement que celle du courage. Cependant, si la guerre défensive, la seule que l'on puisse justifier dans l'état avancé de civilisation où nous nous trouvons, la seule où la vertu puisse se montrer et se mûrir parmi les travaux pénibles qui secondent la pureté de l'air sur le sommet des montagnes, était en effet la seule qu'on adopta comme juste et glorieuse, le véritable héroïsme de l'Antiquité pourrait encore animer le sein des femmes. Mais, aimable, doux et joli lecteur, homme ou femme, ne t'alarme pas, car quoique j'aie mis en opposition le caractère du soldat de nos jours avec celui de la femme civilisée, je ne vais pas conseiller à celle-ci de changer son sac à ouvrage en giberne, malgré que je désire sincèrement de voir métamorphoser la baïonnette en émondoir. Je n'ai voulu que rafraîchir une imagination fatiguée du spectacle des vices et des folies qu'amène le torrent fangeux de l'opulence qui a souillé tous les purs ruisseaux de l'affection naturelle, en supposant que la société se constituerait un jour de manière que tout homme serait forcé de remplir ses devoirs de citoyen, ou encourrait le mépris public, et que, tandis qu'il remplirait quelques fonctions de la vie civile, sa femme, également citoyen actif, ne mettrait pas moins d'attention à gouverner sa famille, élever ses enfants et secourir ses voisins. Mais pour la rendre réellement vertueuse et utile, il ne faut pas qu'en remplissant ses devoirs civils, elle soit de fait privée de la protection des lois civiles. Il ne faut pas qu'elle dépende pour sa subsistance des bontés de son mari durant sa vie, ou après sa mort de l'appui de quelques personnes. Car comment celui qui n'a rien en propre serait-il un être généreux? Ou peut-il être vertueux celui qui n'est pas libre? Dans l'état actuel des choses, la femme qui se contente d'être fidèle à son mari, mais n'allaite ni n'élève ses enfants, mérite à peine le nom d'épouse, et n'a certainement pas droit à celui de citoyenne. En ôtant les droits naturels, vous avez nécessairement dispensé des devoirs. En effet, quand les femmes, si faibles d'âme et de corps, qu'elles ne retrouvent quelque vivacité que pour rechercher de vains plaisirs, ou inventer des modes frivoles, nécessairement, elles ne peuvent servir qu'à amuser les hommes. Est-il un spectacle plus affligeant pour quelqu'un qui pense que de voir dans les nombreux équipages roulant pêle-mêle le matin dans cette capitale des femmes ennuyées et maladives qui tâchent de se fuir elles-mêmes? J'ai souvent désiré, avec le docteur Johnson, d'en placer quelques-unes dans une petite boutique entourée d'une demi-douzaine d'enfants qui attendraient leur pain du savoir-faire de ces belles languissantes. Je m'abuse fort si quelque vigueur cachée ne rendait bientôt de la santé et du feu à leurs yeux. Probablement l'exercice de la raison ranimerait ces joues tirées d'ennui et rendrait à leur caractère sa dignité perdue, ou pour mieux dire, le mettrait en état d'atteindre à toutes celles qu'il doit avoir naturellement. Si de simples méditations sans pratique ne peuvent jamais faire acquérir la vertu, à plus forte raison ne pourra-t-elle être le partage de cette indolence que produisent naturellement les richesses. D'ailleurs, quand la pauvreté attire plus de mépris que le vice lui-même, la morale n'est-elle pas attaquée jusqu'au vif? Sans doute les femmes, dans les situations ordinaires de la vie, sont également appelées par la religion et la raison à remplir le devoir d'épouse et de mère. J'en conviens, de peur qu'on ne se méprenne sur le sens de mes idées. Mais je ne puis m'empêcher de me plaindre de ce qu'il ne s'ouvre pas pour les femmes d'une classe supérieure un chemin qui les mène à des plans plus vastes d'utilité et d'indépendance. Je m'attends bien à exciter le rire dédaigneux de la critique en laissant tomber ici, en passant, un aperçu que je me propose de suivre quelques jours. Oui, je suis persuadé qu'au lieu d'être gouverné arbitrairement, sans avoir aucune part directe aux délibérations, les femmes devraient avoir aussi leurs représentants. J'avoue que tout le système de représentation en Angleterre n'étant aujourd'hui qu'un instrument commode pour le despotisme, elles n'ont pas plus à se plaindre qu'une foule d'autres citoyens. Car, après tout, elles sont aussi bien représentées que la classe nombreuse, attachée aux travaux pénibles, qui paye la liste civile de la royauté, tandis qu'elle peut à peine donner une bouchée de pain à ses enfants. Comment sont-ils représentés, ceux dont les sueurs ont servi à détremper le ciment de magnifiques écuries de l'héritier présomptif, ou ont payé le vernis brillant dont est couvert le char d'une maîtresse qui, du fond de cette machine commode et somptueuse, les regarde avec dédain. Les taxes imposées sur l'indispensable nécessaire mettent une foule de princes et de princesses, tout au moins inutiles, en état d'éblouir de leur pompe stupide une autre foule d'hébétés qui adore presque un luxe dont ils payent si cher les frais. Il n'y a qu'une grandeur gothique, une magnificence inutile, et qui sent les siècles de la barbarie, avoir des sentinelles à cheval aux portes de Whitehall. Pour moi, je n'ai jamais pu les regarder sans que l'indignation se mêlât au mépris qu'ils m'inspiraient. Combien ne faut-il pas que le jugement soit faussé quand on admire cette manière d'être de l'État? Mais de pareilles folies feront fermenter toute la masse de l'espèce humaine jusqu'à ce que la vertu ait entièrement fait disparaître les monuments de celle-ci. En effet, le même caractère ne manquera pas d'établir son empire dans l'ensemble de la société, et les raffinements du luxe ou les regrets vicieux de la pauvreté envieuse en banniront également la vertu, considérée comme caractéristique de cette société, ou ne la présenteront que sous l'aspect ridicule des pièces du vêtement bigarré d'Arlequin porté par l'homme civilisé. Dans les rangs élevés, c'est par député qu'on s'acquitte de tous ses devoirs, comme si l'on pouvait jamais charger quelqu'un de cette commission. Et les vains plaisirs que l'oisiveté des riches les force à rechercher paraissent si attrayants à la classe qui vient immédiatement après que les nombreux pourchasseurs de l'opulence sont prêts à tout sacrifier pour marcher sur leurs pas. On regarde alors les emplois les plus importants et les plus sacrés comme des bénéfices simples, parce qu'on ne se les est procurés que par intérêt et qu'on a eu en vue que de mettre un homme d'État de marqué dans le monde. Les femmes en particulier voudraient toutes être des « ladies », ce qui veut dire simplement n'avoir rien à faire. Mais aller à l'aventure, je ne sais trop où, pour y tuer le temps, je ne sais trop à quoi. Mais qu'est-ce que les femmes ont donc à faire dans la société, pourra-t-on m'objecter? Hors de s'y amuser et d'y babiller avec grâce. Sûrement, vous ne voudriez pas les condamner toutes à nourrir des poupons ou à ranger des bouteilles de petites bières dans une cave. Non, sans doute. Mais les femmes peuvent certainement étudier l'art de guérir et être médecin aussi bien que garde-malade. L'art des accouchements, par exemple, la décence semblait le leur réserver. Je crains bien pourtant que le mot de sage-femme ne tarde pas à être remplacé dans tous les dictionnaires par celui d'accoucheur, et qu'une preuve de l'ancienne délicatesse de mon sexe ne s'efface bientôt du langage. Elles pourraient aussi étudier la politique et donner ainsi une base plus étendue à leur bienveillance. Quant à la lecture de l'histoire, je ne la regarderai guère comme plus utile que celle des romans si on ne la lisait que comme une simple biographie, si l'on y observait le caractère des différents siècles, les progrès dans la politique, dans les arts. En un mot, si l'on ne la considérait comme l'histoire de l'homme en général et non comme celle de quelques individus qui ont occupé un piédestal dans le temple de la renommée et sont tombés ensuite dans le torrent du temps dont les vagues silencieuses entraînent tout devant elles dans le gouffre sans forme qu'on appelle éternité. Car pourrait-on nommer forme ce qui n'a pas de forme? Il ne manque pas d'autres occupations auxquelles elles pourraient se livrer si elles étaient élevées d'une manière plus convenable, ce qui en empêcherait plusieurs de tomber dans la prostitution. Les femmes ne se marieraient point alors pour avoir un soutien, comme les hommes qui acceptent des places du gouvernement, sans en remplir les devoirs. Le soin de gagner leur subsistance, le plus louable de tous, ne les placerait pas presque au niveau de ces pauvres créatures abandonnées qui vivent de la débauche. Car les faiseuses de mode et les couturières ne sont-elles pas classées immédiatement après les filles? Le peu d'emplois à la portée des femmes, loin d'être libres, sont purement domestiques. Lorsqu'une éducation supérieure les rend propres à se charger d'élever les enfants, en qualité de gouvernantes, elles ne sont pas traitées comme les précepteurs, quoique ceci ne le soit pas toujours de manière à les rendre respectables aux yeux de leurs élèves, sans parler de ce qui touche à la satisfaction particulière de l'individu. Mais comme les femmes qui reçoivent une éducation soignée ne sont jamais destinées à la condition humiliante que la nécessité les force quelquefois d'adopter, elles en paraissent dégradées, et il faudrait bien peu connaître le cœur humain pour ne pas voir que rien au monde n'affecte la sensibilité comme de déchoir. Quelques-unes de ces femmes peuvent être éloignées du mariage par la tournure de leur esprit ou par délicatesse. D'autres, il peut n'avoir pas été en leur pouvoir, dans cette déplorable condition, d'échapper à la servitude. Or, n'est-ce pas un gouvernement très défectueux, très oublieux du bonheur d'une moitié de ses membres, que celui qui ne pourvoit point au sort des femmes honnêtes et indépendantes, en les encourageant à prendre des états respectables? Car si l'on veut que leur vertu privée soit utile au public, il faut qu'elles aient une existence civile dans l'État, mariées ou non mariées. Sans cela, nous verrons continuellement des femmes respectables dont la sensibilité aura été péniblement affectée par un mépris non mérité. Nous les verrons, dis-je, se flétrir comme le lys arraché par le soc de la charrue. C'est une vérité triste, mais tel est l'heureux effet de la civilisation, que les femmes les plus respectables sont précisément les plus opprimées, et à moins qu'elles n'aient une intelligence bien supérieure à l'intelligence commune des deux sexes, à force d'être traitées comme des êtres méprisables, il faut qu'elles le deviennent. Combien n'est-il pas de femmes qui usent ainsi leur vie dans le chagrin, qui auraient pu pratiquer la médecine, diriger une ferme, tenir une boutique, et se faire un établissement par leur propre industrie, au lieu de pencher leur tête surchargée du poids de la sensibilité qui consume la beauté à laquelle elle avait d'abord donné de l'éclat. Je doute même qu'il y ait autant d'affinité entre la pitié et l'amour que les poètes l'ont imaginé, car j'ai rarement vu beaucoup de compassion pour les femmes malheureuses, à moins qu'elles ne fussent jolies. Alors peut-être la pitié était la douce suivante de l'amour ou le proxénète du libertinage. La femme qui gagne son pain en remplissant quelques devoirs, combien n'est-elle pas plus respectable que la beauté la plus accomplie? Que dis-je, la beauté? Je suis tellement sensible à la beauté du caractère moral, à cette harmonieuse propriété qui règle les passions d'un esprit bien ordonné, que je rougis d'en faire la comparaison. Mais je gémis de voir un si petit nombre de femmes viser à cette dignité morale en s'arrachant au tourbillon enivrant du plaisir, ou à cette indolence qui paralyse leurs bonnes qualités. Cependant, vaines de leur faiblesse, il faut toujours qu'elles soient protégées, qu'elles vivent à l'abri de tout soin de tous les travaux pénibles qui dignifient l'esprit. Si tel est l'arrêt du destin, si elles doivent se rendre elles-mêmes insignifiantes et méprisables pour dissiper doucement la vie, qu'elles n'attendent pas d'être estimées quand leur beauté sera flétrie, car c'est le destin des plus belles fleurs d'être admirées et effeuillées ensuite par la main qui les accueillit. De combien de manières ne voudrais-je pas, par pure bienveillance, imprimer cette vérité dans mon sexe? Mais je crains que les femmes ne veuillent pas écouter une vérité qu'une expérience coûteuse a pourtant appris à plusieurs, et qu'elles ne consentent point à renoncer aux privilèges de rang et de sexe pour les droits de l'humanité que ne peuvent réclamer ceux qui n'en remplissent pas les devoirs. À mon avis, les écrivains les plus utiles sont ceux qui excitent la sensibilité de l'homme pour l'homme, indépendamment de l'état qu'il remplit ou de la draperie des sentiments factices. Je désirerais donc convaincre les hommes raisonnables de l'importance de quelques-unes de mes idées et obtenir de leur part qu'ils voulussent bien peser sans passion l'ensemble de mes observations. J'en appelle à leur intelligence et je demande, au nom de mon sexe, que leur cœur prenne quelque intérêt à cette question. Je les invite à provoquer l'émancipation des femmes pour en faire des compagnes dignes d'eux. Si les hommes brisaient généreusement nos chaînes et se contentaient d'une société raisonnable, au lieu d'une obéissance servile, ils trouveraient en nous des filles plus réservées, des sœurs plus tendres, des épouses plus fidèles, des mères plus raisonnables. En un mot, de meilleures citoyennes. Nous les aimerions alors d'un véritable amour, parce qu'ils nous auraient appris à nous respecter nous-mêmes. La paix, le repos de l'esprit d'un honnête homme ne serait point troublé par l'oisive vanité de sa femme, et ses enfants ne seraient pas obligés de chercher un saint étranger, faute d'avoir pu se réfugier dans celui de leur mère.